Nous sommes pour l'heure en compagnie de Véronique Bellon, artiste canadienne multidisciplinaire dans les domaines du son, de l'installation multimédia et de la littérature. Véronique Bellon vient de terminer son cursus au Frénois et participe à Panorama 14 avec son installation « This is Major Tom to Ground Control », un projet de littérature extraterrestre qui, à l'écoute de la musique des sphères, dialogue avec le cosmos. Alors Véronique Bellon, pourquoi le Frénois ?
Pourquoi le Frénois ? Mais je pense qu'il y a quelques raisons. La première, c'est qu'au moment où j'ai tenté le concours, donc il y a 2 ans, ma démarche artistique était dans une sorte de basculement où j'étais en train de passer d'une pratique de la photographie à une pratique plutôt sonore, donc surtout avec la voix enregistrée. Et donc je sentais que j'avais besoin de plus en plus du multimédia. Et comme le Frénois a une réputation qui rayonne jusqu'au Québec, et ben voilà, j'avais entendu parler tout ça. Et bon, faut dire aussi que c'est couplé à un désir que j'avais depuis plusieurs années de venir m'établir ici en France, parce qu'après de multiples voyages, voilà, j'avais décidé que j'avais envie d'y passer plus de temps pour y vivre vraiment. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée.
Et que vous êtes arrivée à Lille.
Oui.
Alors vous avez travaillé cette année avec Edwin van der Heide, Madeleine van Doren et Arnaud Laporte. Que vous ont apporté ces trois personnalités ?
Bah, ils m'ont apporté, je crois, des choses très différentes puisqu'ils viennent d'horizons voilà, qui sont un peu tous éloignés. Avec Arnaud Laporte, bah, voilà, on a beaucoup parlé de la question radiophonique de la pièce, forcément. Madeleine van Doren, pour sa part, a été très, très près du projet dans la mesure où c'est avec elle que j'ai pu établir un contact avec l'Observatoire de Paris. Où, voilà, donc, qui est partenaire sur le projet. Et donc, elle m'a plutôt suivie sur le plan, on va dire, pratique du projet. Et avec Edwin van der Heide, qui était mon professeur invité, ben voilà, c'était toutes les questions d'installation, de mise en place, parce que c'est quelqu'un qui travaille le son et la lumière. Donc, voilà, on a plutôt discuté de l'installation en termes artistiques.
Et donc, tout ça se complétait parfaitement bien.
Oui.
Quels sont les fondements de votre démarche ?
Bah, le texte y est pour beaucoup parce que moi, à la base, j'ai été formée en littérature avant d'arriver dans les arts visuels. Et donc, c'est toujours le texte qui a été le moteur de création dans ma recherche. Bon, au tout début, je le faisais peut-être un peu naïvement par le biais du livre d'artiste, voilà, dans une correspondance texte-image qui était voilà, hyper importante pour moi, avec la photographie et tout ça. Et donc, voilà, c'est vraiment par le texte que naît la plupart de mes projets, enfin, je dirais même tous, quoi.
Donc finalement, ce sont les mots qui sont les catalyseurs de votre création visuelle.
Absolument, oui.
Mais vous auriez pu écrire, par exemple, écrire un roman, écrire...
J'aurais pu, c'est une question qu'on m'a énormément posée pendant toute la durée de mes études. J'aurais pu, mais je pense que la question du dispositif m'intéresse beaucoup. Et voilà, j'adore lire, j'adore les romans et tout ça, mais je ne me sens pas forcément... prête ou voilà, c'est j'ai encore besoin, je pense, de voilà, d'avoir l'œuvre artistique comme catalyseur ou comme dispositif pour faire naître le texte. Bon, peut-être qu'un jour ça viendra, l'écriture en soi, mais pour l'instant voilà, le rapport au visuel est encore trop important.
De toute façon, du coup, c'est beaucoup plus complet.
Bah oui, on peut dire
ben, voilà. Alors vous avez une forte attirance pour la voix que vous avez exprimée dans votre installation sonore comme une chorale de voix dans la tête. Oui. Alors d'où vient cette attirance pour la voix ?
J'ai dans ma démarche, je me questionne beaucoup sur la mémoire et la voix intérieure, les souvenirs, comment on se raconte des histoires, comment on... Voilà, par la voix intérieure que seul nous entend, qui n'est pas audible pour l'extérieur, comment on reconstruit un peu les phénomènes qui se sont passés dans notre vie. Et puis, c'est un peu cette voix-là que je cherche à mettre, à donner à entendre finalement au public. C'est-à-dire que voilà, c'est pour moi une manière de faire entendre des choses qui ne sont pas forcément audibles. Et donc avec Comme une chorale de voix dans la tête, c'était une pièce à 9 voix. Et c'était construit un peu à l'image des idées qui s'entrechoquent dans la tête. Et puis voilà, avec un discours qui est parfois très cohérent, parfois contradictoire. Et donc un peu de faire entendre ces... un peu l'influx nerveux finalement du cerveau et comment ça peut se traduire en paroles.
Donc la mémoire et le son, très bien, mais vous parlez aussi à un moment de mémoire et de silence.
Oui.
Alors comment vous faites pour allier le son, le silence, tout ça ?
Ben, en fait, je pense que mon désir premier, c'est de faire entendre le contenu du silence, quoi. Parce que moi, le silence, je le perçois un peu comme un flux. Voilà, autour... Cette question-là a débuté autour de la question de la pensée, où je me disais, mais voilà, il y a quelque chose, quoi. Il y a forcément du contenu, mais elle n'est pas audible. Et donc, voilà, c'est à partir de cette question-là, je me suis dit, mais enfin, il n'y a pas de silence complètement vide. Et donc, voilà, mon but, c'est un peu de venir ausculter différents types de silence ou de vide pour essayer d'en relever un contenu. Et bon, ça passe forcément par les mots, du moins jusqu'à maintenant. Et voilà, il y a une sorte de narration qui jaillit de cette étude du silence.
Et du vide découle la recherche de l'invisible aussi.
Oui, aussi, absolument. Ouais.
Comment vous intégrez donc justement cette notion de vide dans le travail? Parce que, bon, le vide, c'est un joli mot, mais comment on fait pour travailler avec?
C'est pas évident. Je crois que dans le cadre du projet que je présente actuellement au Frénois, voilà, c'est de regarder quelque chose d'infiniment plus grand et de se dire que ce vide a un contenu. Et je pense que ça commence par une approche très personnelle, en fait. Une question d'écho ou de résonance avec ce médium. Et puis, voilà, après, c'est fait sans prétention. C'est une interprétation, on va dire, personnelle de quelque chose de plus grand que moi.
Mais d'ailleurs, ce vide n'est pas un vide. Moi, je me demande si le point d'ancrage de votre travail, finalement, ça ne pourrait pas être la poésie.
Ah ben, oui, en quelque sorte, forcément. En tout cas, c'est la poésie qui en découle à chaque fois. Donc, c'est sûr que ça reste indissociable du travail. Oui.
Alors, avant d'aborder justement votre dernière installation au Frénois, on écoute quelques extraits sonores qui pourraient être un petit peu surprenants.
Il semble y avoir des variations d'estimation dues à la collision entre plusieurs messages. Dans cette optique, ignorer les risques est malheureusement souvent la meilleure stratégie pour ses ressources propres.
Voilà, on a entendu cet extrait tout à fait étonnant de votre installation. Comment est né ce projet un peu fou de This is Major Tom to Ground Control?
Bon, en fait, j'avais un peu par hasard, en fait, je suis tombée sur un vidéo YouTube qui présentait, en fait, le son des lunes de Jupiter. Et donc là, je me suis dit, mais le son des lunes, mais c'est pas possible, il n'y a pas de son dans l'espace. Et donc, voilà, j'ai écouté l'extrait. Bon, ça produisait un son semblable à ce qu'on entendait derrière la voix dans l'extrait qu'on a entendu. Mm-hmm. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai compris qu'il y a énormément d'objets célestes qui émettent des ondes radio. Et que, bon, même si les radioastronomes n'écoutent pas forcément ces sons, c'est quand même possible d'interpréter ces fréquences et de les traduire en fréquences audibles. Et là, j'ai été complètement fascinée parce que, voilà, ça venait de toucher à quelque chose de quand même justement très proche de ma démarche, quoi, cette question du vide, du silence et du contenu sonore qu'on peut en relever. Et donc, voilà, c'est parti un peu comme ça. Et ça faisait un bon moment que j'avais envie de travailler la question du texte aléatoire. Et donc, je pense que voilà, c'est un peu comme deux désirs qui se sont joints un peu naturellement. Et le projet est né de cette rencontre-là en deux envies.
Quelle est l'origine du titre?
En fait, c'est en référence à David Bowie, la chanson Space Oddity. Le vidéo YouTube dont je parlais tout à l'heure, en fait, je suis tombée dessus en regardant le clip de la chanson de David Bowie. Et bon, voilà, c'était un peu pour rendre hommage à ce chanteur que j'aime bien, mais aussi parce que ça en disait tellement long sur le processus de la pièce que je me suis dit, ben voilà, quoi, je le garde. Donc ça oui. M'a accompagné tout au long de la création du projet, et puis voilà.
C'est vrai que le titre a une grande évidence. Alors donc finalement, tout ça est né presque par hasard, d'un surf sur Internet à partir d'une chanson. Et puis voilà, l'étincelle est arrivée.
Mais voilà, c'est ça, la magie du hasard.
Alors, quelqu'un comme Stephen Hawking vous fascine aussi?
Bah oui, forcément.
Pas que David Bowie, en fait.
Non, c'est ça, voilà. Non, mais voilà, Stephen Hawking, Jean-Pierre Luminet, Hubert Reeves, voilà, c'est des gens que j'ai lus parce qu'ils ont une capacité de vulgariser des éléments scientifiques. C'est quelque chose qui me fascine, mais je n'ai pas du tout, je pense, le bon type de cerveau pour comprendre ces éléments. Donc d'avoir des gens qui arrivent à le vulgariser d'une manière aussi agréable à lire, voilà. Donc c'est un peu comme ça que je me suis intéressée à tous les phénomènes que j'exploite dans la pièce.
Alors justement, que vous a dit l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet quand vous êtes allé le voir avec votre projet sous le bras ?
En fait, je pense que ça l'a bien intéressé parce que lui-même travaille la poésie en plus de son travail de chercheur et tout ça. Et en fait, on a parlé ensemble du programme de recherche SETI qui écoute aussi les ondes sonores, un peu de la manière dont je le fais, mais qui cherche un signal qui serait intelligent, quoi, pour montrer qu'il y aurait une forme de vie extraterrestre qui essaie de communiquer avec nous. Et donc voilà, on a un petit peu discuté de ma position à moi qui serait plutôt l'inverse, qui serait d'assumer en fait que ces ondes-là qu'on reçoit sont pas intelligentes, mais que voilà, c'est moi en tant qu'auteur qui viens y coller une forme de contenu. Et donc forcément, lui a tout de suite ramené la question de l'Oulipo et de la littérature aléatoire et tout ça, qui est évidemment une grande influence aussi dans mon travail. Et donc c'est beaucoup autour de cette question-là qu'on a discuté.
Oui, justement, on reviendra sur l'Oulipo tout à l'heure. Mais moi, j'ai eu l'impression que vous étiez parti à la recherche de la musique des sphères, chère à Platon et Aristote, mais avec les moyens de la science moderne.
Oui, c'est vrai qu'au niveau métaphorique, en tout cas, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. La question de la musique des sphères mais même toute la mythologie à laquelle qu'on a appliquée dans le ciel. Et
finalement, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a l'impression au départ que ça ne fait pas très sérieux quand on lit ça, musique des sphères. Bon, on se dit que c'est des vieux philosophes d'il y a longtemps. Et puis vous, avec les moyens contemporains, vous nous montrez que cette musique des sphères existe.
Oui, voilà, c'est tout à fait ça. En fait, j'avais aussi écouté dans le processus de création de la pièce une œuvre de Gérard Griset qui s'appelle Le Noir de l'Étoile et qui a travaillé avec des pulsars qui lui ont servi de métronome pour la création de sa pièce et tout ça. Et puis voilà, quoi, c'est à quelque part une manière de faire entendre une forme de musique qui serait là, mais qu'on n'a juste peut-être pas les moyens d'entendre naturellement.
C'est aussi un moyen de retrouver les origines de l'univers, mais les origines sonores.
Oui, absolument. C'est d'ailleurs possible d'entendre, soi-disant, le son du Big Bang. Donc,
vous l'avez entendu ?
Oui, j'ai écouté. Mais bon, c'est très bref. Hein,
ça doit être très ténu parce que c'est lointain, en tout cas.
Oui, c'est ça.
C'est sûr. Parce qu'on est très habitué à parler de la vitesse de la lumière, donc de l'univers par rapport à la lumière et à sa durée, mais pas tellement par rapport au son.
Non, c'est vrai. Et, en fait, c'est que la radioastronomie permet de voir complètement autre chose qu'on ne voit pas forcément avec la question de la lumière visible. C'est pas comme un télescope, par exemple, qu'on peut utiliser seulement la nuit, quand il fait noir. La radioastronomie sert à aller chercher des choses qu'on ne verrait pas, s'il y a des nuages de poussière en suspension dans l'univers, des choses comme ça. Et permet aussi de capter des ondes 24 heures sur 24. Et donc voilà, à partir de là, on a complètement une autre imagerie du ciel qui est possible, et c'est fascinant.
Alors vous avez travaillé à partir des ondes radio en provenance de Suède. Est-ce que vous pouvez nous dire le plus simplement possible comment tout cela fonctionne ?
En fait, c'est un radiotélescope qui appartient à l'Observatoire de Paris, mais qui est placé en Suède. Et donc le radiotélescope, c'est un peu comme une antenne. Ce serait un peu comme un poste radio qui pointe vers le ciel et qui récupère les ondes radio qui proviennent du cosmos. Donc, comme je disais tout à l'heure, la plupart des éléments qui se trouvent dans notre Voie lactée, que ce soit les planètes, le soleil, les étoiles et tout ça, produisent des fréquences électromagnétiques qui se situent dans le spectre des ondes radio. Et donc, on capte ces fréquences. Bon, faut dire que les radioastronomes vont pas, comme moi, diffuser le son. Donc moi, c'est une transposition en fréquence audible des ondes électromagnétiques qui sont reçues. les radioastronomes vont utiliser ces données pour les transposer en images, un peu comme on le fait avec les rayons X, par exemple. Et donc, à partir de là, bon, dans un premier temps, je transpose ces fréquences en son audible, ce qu'on entendait en fond derrière la voix. Et après, ces ondes sonores sont interprétées et c'est elles qui viennent activer le générateur de texte aléatoire. Donc, c'est-à-dire que c'est le contenu du signal qui crée le texte de toute pièce.
Alors finalement, le son du Soleil n'est pas le même que celui de Jupiter.
Ah non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Bon, faut dire que la plupart des éléments vont émettre une sorte de grésillement.
Comme on a entendu là.
Mais par exemple, il y a les lunes de Jupiter qui émettent un son qui est très particulier. On peut entendre les vents solaires. Il y a, comme je disais tout à l'heure, les pulsars qui sont comme des métronomes. C'est des étoiles qui tournent sur elles-mêmes et qui produisent un son très, très régulier. Et puis, voilà quoi. Donc, chaque source a sa particularité qui lui est propre.
Et finalement, il n'y a pas de silence dans l'espace. On l'a entendu tout à l'heure, mais plutôt un bruit de fond perpétuel.
Ben voilà. Bon, c'est sûr que dans l'espace, on ne peut pas l'entendre parce qu'il n'y a pas d'élément physique pour propager ce son. Mais voilà, oui, c'est possible en transposant du moins les fréquences qu'on reçoit. C'est un univers qui est très bruyant.
Et on peut écouter les étoiles, donc.
Ben oui, voilà.
Très bien, vous allez nous faire une symphonie bientôt. Alors, ce générateur aléatoire de mots est assez surprenant dans son résultat, en tout cas. Alors, je cite quelques phrases, on en a entendu tout à l'heure, mais j'aime bien celle-ci, par exemple. Il est interdit de regarder depuis n'importe quelle fenêtre dans la vie sans même s'en apercevoir. Encore une autre, organiser les sous-titres de sa fin. Pour acquérir cette saine intelligence, il faut prendre rendez-vous. L'univers lui-même est surévalué, c'est pour l'attente des motoneiges. Si nous avions besoin d'un sens, alors la lune est invisible et notre ciel reste pour parler en cœur. Alors, on a parlé de l'Oulipo tout à l'heure, qui est d'ailleurs fondée par un mathématicien. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être devenue une poète? Test d'ailleurs, oulipienne, un peu extraterrestre.
ouais, peut-être un peu. Effectivement, il y a des liens à faire avec l'Oulipo. Oui, en fait, c'est de la combinatoire. Je peux peut-être expliquer un petit peu rapidement comment fonctionne le générateur de texte. En fait, c'est par apprentissage statistique. C'est-à-dire que c'est une machine qui serait comme un enfant à qui on apprend à parler. Et donc, en lui faisant lire des textes, donc là, dans mon cas, c'était à peu près 8 millions de mots. Et en fait, la machine va juste calculer le nombre de probabilités qu'un mot en suive un autre. C'est-à-dire que, par exemple, si on a le mot « table », il y a de fortes chances que le mot « chaise » ou « couvert » ou « assiette » vienne après. Et donc, c'est par l'analyse combinatoire. Après, bon, la machine conserve les mots, élimine les phrases qui ont déjà été construites, de la même manière qu'un être humain qui apprend à parler, et parle en fonction de ses possibilités de réunion de mots, finalement.
Finalement, cette machine, c'est notre cerveau.
C'est fait, vraiment, oui. Je pense que j'ai beaucoup réfléchi le projet en fonction de ça, c'est-à-dire que même le contenu du signal qui vient interférer sur la génération de texte, pour moi, je le vois un peu comme des influx nerveux. Et c'était pour ça que c'était important pour moi d'avoir vraiment des descripteurs dans le signal qui viennent toucher des notions de langage qui sont liées le plus possible, finalement, à la forme.
Alors, une bibliothèque est en train de se constituer à partir des sons du cosmos transformés aléatoirement en mots. Une bibliothèque papier.
Oui, voilà. Donc, dans l'installation, on a d'abord une voix de synthèse qui récite le texte comme on l'a entendu tout à l'heure. Mais on a aussi une imprimante matricielle qui imprime en temps réel tout le texte qui est produit par le générateur de texte. On produit en moyenne 1 à 2 livres par jour qui font 150-200 pages. Et donc, ces extraits de texte sont reliés sous la forme de livres à chaque jour et placés au sein de cette bibliothèque. Donc, pour l'instant, je pense qu'il doit y avoir peut-être une trentaine ou une quarantaine de livres, mais à la fin de l'exposition, on devrait en avoir environ 150, peut-être même 200.
Et vous en ferez quoi?
Pour moi, d'abord, je vais les lire. C'est ma mission de l'été. Ensuite, pour moi, c'est comme des archives, c'est-à-dire qu'elles peuvent exister en dehors du projet actuel. Et là, au mois de septembre, à la fin du mois de septembre, les archives textes vont être présentées à l'Hospice d'Avray, à Tourcoing. Parce qu'en ce moment, il y a la voix de synthèse qui est diffusée aussi là-bas et au Jardin botanique pour compléter un petit peu la diffusion sonore de la pièce.
Oui, diffusée dans la rue.
Oui, voilà, en extérieur.
Public.
Oui, voilà.
Et vous avez des réactions, déjà?
Ouais, je pense que c'est un petit peu surprenant parce qu'on voit pas forcément les haut-parleurs et puis les gens, on une voix comme ça qui l'interpelle, qui les interpelle de manière très spontanée parce que bon, il y a des bons temps de silence aussi et puis voilà, je pense que ça crée des réactions assez intéressantes.
Est-ce que vous avez l'impression que votre collaboration avec l'univers scientifique a été fructueuse?
Ah oui, absolument. Et même, je dirais que ça a ouvert une porte à des collaborations futures aussi. Pour moi, je pense que l'art et la science sont intimement liés, ne serait-ce que par l'imaginaire qu'ils évoquent. Et puis, comme j'ai été beaucoup inspirée par des notions scientifiques, même si elles étaient très prises en surface, de pouvoir rencontrer des scientifiques, discuter avec eux et comprendre un peu mieux leur fonctionnement, moi, ça m'a juste donné envie de poursuivre cette collaboration. Oui.
Bon, bah alors, on attend une prochaine installation du genre extraterrestre. Véronique Bellan, merci. On rappelle que vous êtes à Panorama, au Fresnois, à Tourcoing, mais aussi au Jardin botanique et à l'Hospice d'Avray. Et on peut voir votre installation et les œuvres de tous les élèves de la promotion Michael Snow du Fresnois dans Panorama 14 jusqu'au 22 juillet.